Vous écoutez France Culture.
France Culture, il est 12h30. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Un rapport nous apprend ce matin que la construction de 6 nouveaux EPR en France pourrait être envisagée à partir de 2025. Explication de Catherine Pétillon. Et puis nous écouterons également la réaction de Frédéric Compin, président de l'association Les Amis de la Terre.
Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé ce matin la mise en place d'un grand pôle public de banques et d'assurances.
Oui, il prévoit devoir se rapprocher prochainement la Banque Postale et CNP Assurances. Il n'y aura pas de privatisation, a aussitôt martelé le ministre avec Mariam El Kurdi. Nous tenterons de comprendre ce qui pourrait changer donc à terme pour la Poste.
La complexité de la pensée du président Emmanuel Macron également dans cette édition.
Oui, après la polémique lancée hier au sujet de sa déclaration sur les Gaulois réfractaires au changement, le chef de l'État a tenu à s'expliquer aujourd'hui en précisant qu'il s'agissait d'un trait d'humour. Décryptage dans ce journal avec Frédéric Seyss.
Et puis l'interview politique aujourd'hui.
Nous serons en duplex du ministère de la Santé avec Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées.
À l'étranger ?
Oui, nous irons en Allemagne où les rassemblements violents d'individus d'extrême droite à Chemnitz posent la question de l'état de droit, mais aussi aux États-Unis avec une controverse aux teintes racistes. Et enfin, nous essaierons d'analyser ce qui peut expliquer aujourd'hui cette forme de paralysie évidente dans les discussions actuelles avec la Corée du Nord. Enfin, à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées au menu aujourd'hui.
Oui, cap sur le monde aussi pour nous avec Apicratie, le nouvel essai de notre invitée, la sociologue Eva Illouz. Comment l'industrie de bonheur a pris le contrôle de nos vies. Nous vous dirons tout dans une vingtaine de minutes.
Merci, à tout à l'heure. Si la sempiternelle question de la sortie du nucléaire en France au profit d'un gigantesque parc d'énergie durable devait encore se poser, l'information publiée ce matin dans le journal Les Échos devrait à elle seule achever de lever les doutes. On y apprend qu'un rapport issu d'une mission lancée par l'ex-ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot et le ministre de l'économie Bruno Le Maire préconise la construction d'un premier lot de 6 nouveaux EPR à partir de 2025. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
En clair, l'objectif du gouvernement qui doit encore décider des suites à donner à ce rapport pourrait être non seulement de maintenir les capacités de notre filière nucléaire, mais aussi de les augmenter.
Et on ne peut pas arrêter de construire des EPR, ces réacteurs nucléaires nouvelle génération. Voilà en résumé le message de ce rapport sur le maintien des capacités industrielles de la filière. Selon le journal Les Échos, le rapport prévoit même un plan précis pour la construction de 6 nouveaux EPR à partir de la prochaine décennie. Il envisage la construction d'un premier exemplaire qui démarrait en 2025 pour entrer en service en 2035, sans qu'un deuxième réacteur serait lancé 2 ans après le premier et ainsi de suite. Alors derrière ces propositions, on trouve 2 personnalités du secteur du nucléaire, Laurent Collet-Billon, ex-délégué général pour l'armement, et Yannick Descata, ancien administrateur général du commissariat à l'énergie atomique et actuel conseiller du président d'EDF, EDF qui depuis longtemps plaide pour la construction de nouveaux EPR, avec pour raison avancée le maintien des compétences industrielles et l'avenir des salariés, des arguments repris dans le rapport. Ces travaux ont été commandés alors que la France prépare actuellement sa programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment pour la période 2019-2023, et l'avenir de la filière nucléaire sera au cœur des arbitrages à venir. En démissionnant, Nicolas Hulot avait dénoncé le recours à l'énergie atomique, parlant, je cite, d'une folie inutile économiquement, techniquement et dans laquelle on s'entête. Ce matin, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a lui réagi en soulignant que ce n'est pas un rapport qui décide de la politique du gouvernement. Il a par ailleurs préconisé d'attendre que la construction du réacteur de Flamanville soit achevée avant de décider d'en lancer d'autres. C'est normalement à l'automne que devrait être présentée la feuille de route du gouvernement en la matière pour les 5 prochaines années.
Alors évidemment, Catherine, la publication de ce rapport intervient dans un contexte particulier marqué par la démission cette semaine de Nicolas Hulot. Et à ce titre, 10 ONG ont d'ailleurs décidé aujourd'hui même de publier une tribune pour réveiller les consciences en matière d'écologie, mais aussi enjoindre l'exécutif à changer de cap. Alors, ça n'est pas a priori ce que laisse entendre ce rapport. Parmi les associations signataires de cette tribune, Catherine Pétillon, vous avez joint les Amis de la Terre et son président Frédéric Compin. On écoute sa réaction.
Le rapport ne laisse pas présager d'un changement, mais bien de la poursuite d'une fuite en avant qui nous envoie irrémédiablement dans le mur. Là, on est sur la question du nucléaire. Le nucléaire n'est pas une solution pour sauver le climat. Si on construisait une centrale nucléaire par semaine pendant 15 ans, on baisserait à peine les émissions de gaz à effet de serre de 9% au niveau de la planète. Et il n'y a pas moyen, techniquement parlant, de le faire pour ça. Donc le nucléaire n'est pas une solution et on voudrait nous faire croire que c'en est une. Donc ça n'est qu'un rapport à l'heure actuelle. On espère bien que la politique du gouvernement ne changera pas pas et qu'on ne construira pas un nouvel EPR, et déjà qu'on n'ouvrira pas le premier, c'est déjà la première question. Le nucléaire est le réacteur le plus dangereux au monde, il faut absolument éviter ça. Tout ça prouve l'accumulation au sein de ce gouvernement de stratégies qui visent à mettre à mal l'ensemble des politiques écologiques, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient nucléaires, énergétiques, sur les questions de la biodiversité, la question des pesticides, etc., etc. Si on perd la bataille du climat, on ne la perdra jamais. Donc cette question de l'urgence, pour nous, elle est centrale. Elle vise à mettre en lumière le fait qu'il faille mettre en place des mesures radicalement différentes de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. C'est bien pour ça qu'on parle de changement de paradigme et de changement radical de nos modes de consommation et de production.
Frédéric Compin, donc président de l'association Les Amis de la Terre. Toujours au chapitre des dossiers sensibles, celui de la Poste, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé ce matin la création d'un grand groupe financier autour de la Poste, tout en martelant aussitôt que la Poste resterait un établissement public. Il n'y aura aucune privatisation, a encore insisté le ministre. Maria Melchiordi, bonjour.
Bonjour.
Bruno Le Maire explique que ce projet de création d'un grand pôle public de banque et d'assurance est une manière d'assurer la pérennité de la Poste, menacée par la disparition du courrier. Alors concrètement, qu'est-ce que cela peut changer?
Alors l'objectif, selon Bruno Le Maire, c'est de développer l'activité de la Poste dans la banque et l'assurance, ce qui doit permettre, selon lui, de compenser la baisse d'activité importante dans le courrier. La Poste perd en effet chaque année 7% de volume de lettres et colis, soit une perte annuelle de 560 millions d'euros de chiffre d'affaires. Certes, l'établissement reste public, a tenu à souligner le ministre de l'économie, mais si l'opération a lieu, ce n'est plus l'État, directement, qui sera l'actionnaire majoritaire du groupe postal, mais la Caisse des dépôts et consignations. Valérie Manvi, responsable CGT, met en garde contre un virage purement financier.
Le PDG nous l'a rappelé, ce n'est absolument pas une privatisation, c'est quand même un jeu de monopoly où d'actionnaire majoritaire, l'État devient actionnaire minoritaire. On n'est pas contre les nouveaux services. Par contre, ce qu'on a besoin, c'est d'un vrai débat, de vraies négociations.
Stéphane Chevet, secrétaire national CFDT au groupe La Poste, espère lui aussi peser dans les futures négociations.
Ce qui nous préoccupe, nous, ce n'est pas de savoir si la CDC aura plus de poids ou pas, c'est les projets de l'entreprise, les parcours de carrière, l'emploi, les conditions de travail. C'est ça qui est le plus important.
Mais pour Stéphane Chevet, ce rapprochement va aussi dans le bon sens. C'est un moyen, dit-il, de renforcer le groupe La Poste dans le contexte actuel.
Cette convergence en fait des deux entreprises renforce finalement un grand pôle public de la banque assurance. C'est exactement ce qui se passe d'ailleurs sur l'intégralité du marché, c'est-à-dire que les banques aujourd'hui créent des banques assurance et il était légitime et logique que la banque postale, qui est la 6e banque française, et la CNP, le 4e assureur, se rejoignent.
Et pour les détails, il faudra encore attendre. Pour l'instant, l'annonce de Bruno Le Maire n'est qu'un point de départ. Prochaine étape, le dépôt lundi d'un amendement du gouvernement à la loi Pacte sur la croissance des entreprises, dont l'examen reprend au Parlement en septembre.
Merci Mariam Elkurdi. Alors les postiers seront-ils réfractaires au changement? Réponse donc d'ici quelques mois. Ce qui semble acquis en revanche, du moins pour le chef de l'État, c'est que les Gaulois, eux, le sont. Hier en visite au Danemark, Emmanuel Macron a une fois de plus suscité la polémique en opposant la culture danoise, issue selon lui d'un peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies, au réflexe du Gaulois, lui, réfractaire au changement. Alors, face aux réactions outrées de l'opposition qui depuis hier au mieux dénonce une sottise confondante et au pire reproche au chef de l'État son arrogance et son mépris, Emmanuel Macron, en déplacement en Finlande aujourd'hui, a tenu à s'expliquer.
J'ai pas le sentiment que ce soit un scoop que la France ait été composée de tribus gauloises et c'est pour moi une très grande fierté. Et je le faisais par un trait d'humour dans un discours que j'incite à relire ou réentendre dans son intégralité, où je disais que le Danemark était un peuple de luthériens, avec ce que ça implique, de tropisme, ce qui est vrai, de discussion, de consensus, et que nous étions un peuple fait de tribus gauloises. Il a bien changé, ce peuple, à travers les âges, les migrations, etc. C'est un pays qui ne se réforme pas, j'ai déjà dit, il se transforme. Si je pensais que nous n'étions que réfractaires, je ne serais pas devant vous. Et d'ailleurs, je n'aurais sans doute pas été élu. Et il y a une chose qui caractérise la France, le peuple français. C'est son goût de l'intelligence, de l'humour, de l'ironie, de l'humour sur soi-même et sans doute de la complexité. Et donc la polémique hors contexte, en 140 signes, qui fait que dès qu'on dit quelque chose sur soi-même devient une polémique, ça je peux vous dire, c'est pas l'esprit français.
Voilà, alors manifestement, tous ceux qui hier ont mal pris les propos du chef de l'État manquaient donc à minima d'humour, voire de hauteur d'esprit. Frédéric Seyss, bonjour.
Bonjour.
Il n'en demeure pas moins que cette attaque autour des Français réfractaires au changement n'est pas nouvelle en la matière. Et en termes d'esprit de transformation, on ne peut pas dire que le chef de l'État fasse lui-même preuve de beaucoup d'innovation. Reste à savoir pourquoi.
Oui, il faut d'abord préciser le contexte de la déclaration initiale devant la communauté française au Danemark. Emmanuel Macron était en train de deviser du modèle social danois, le fameux modèle scandinave, celui dit de la flexi-sécurité. Et justement, le président français précise tout de suite que ce modèle n'est pas transposable, importable, tel quel, justement parce que les peuples ne sont pas les mêmes. Les Danois, d'un côté, peuple luthérien, on l'a entendu, de l'autre, des Français qui seraient des Gaulois réfractaires au changement. Cette sortie a tout de suite suscité des réactions assez vives. Pour Alexis Corbière de la France Insoumise, on a l'impression qu'Emmanuel Macron souhaiterait changer de peuple. Boris Vallot, au Parti Socialiste, ironise. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui n'ont rien compris. Arrogance et mépris tonnent pour sa part Marine Le Pen. Côté gouvernement, Benjamin Griveaux affirme que le mot réfractaire visait uniquement les partis politique. Une réponse qui ressemble à celle qui avait suivi la polémique sur les fainéants. Rappelez-vous, c'était en septembre dernier, là aussi à l'étranger, là aussi devant la communauté française, en l'espèce en Grèce. Le président avait fustigé les fainéants, les extrêmes et les cyniques. Même chose, il y a exactement un an, la France n'est pas un pays réformable, avait estimé Emmanuel Macron, cette fois à Bucarest, toujours devant la communauté française. Dans cette sortie sur les Gaulois réfractaires, qui n'est donc pas nouvelle dans ce qu'elle dit de la pensée présidentielle, on peut voir deux choses différentes, soit une manière de justifier devant les partenaires européens des réformes qui seraient trop lentes ou trop superficielles, ou bien on peut y voir une manière de délégitimer la colère. Après tout, le peuple français serait par nature frondeur, et ce n'est donc pas la politique menée qui en est la cause.
Merci Frédéric Seyss.
France Culture, il est midi 42, la suite de votre journal, Thomas Cluzel, et comme chaque jeudi dorénavant, voici l'interview politique de la semaine.
Oui, et pour inaugurer ce rendez-vous, nous sommes en duplex du ministère de la Santé avec Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors avant d'évoquer avec vous vos propositions pour mieux accueillir et scolariser les enfants en situation de handicap à quelques jours de la rentrée, une réaction peut-être aux propos du chef de l'État, vous qui avez l'occasion de le rencontrer. Ce genre de sortie dont chacun imagine facilement qu'elles conduiront inévitablement à créer la polémique, fait-elle écho, je ne sais pas, un caractère particulier du président, une forme d'impulsivité ou un goût pour l'improvisation?
Moi, je pense que si on écoute bien le président de la République, il explique justement que la réforme est compliquée, mais que la transformation est tout à fait possible. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est depuis le lieu où il l'a dit, le Danemark. Le Danemark a été le premier pays que j'ai visité pour justement m'inspirer des bonnes pratiques inclusives que ces pays ont depuis longtemps. Et j'ai fait un tour d'Europe, justement, des bonnes pratiques inclusives pour construire cette Europe à partir justement des territoires, des pays qui se sont déjà transformés et prendre justement les bonnes choses à droite et à gauche. Donc, au contraire, je pense que le Danemark peut être un modèle pour beaucoup de choses, notamment pour l'école inclusive dont on parlera tout à l'heure.
Une première question, Sophie Cluzel, avec Stéphane Robert du service politique.
Oui, madame Cluzel, l'autre grande actualité du gouvernement auquel vous participez, c'est la démission de Nicolas Hulot il y a deux jours. Vous le regrettez ?
Bien sûr, je regrette un collègue et ami. C'est toujours un regret de voir partir quelqu'un d'un collectif. C'était en plus un ministre issu de la société civile, tel que moi. Je peux comprendre que c'est difficile. Moi-même, en tant que ministre issu de la société civile, j'ai aussi des impatiences, mais je dirais, et certains arbitrages qui sont pas toujours en votre faveur, mais pour autant, il faut continuer. Je pense que la politique, ce n'est pas que l'art de décider, c'est aussi l'art d'exécuter. Et c'est là où les Français nous attendent. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est d'aller jusqu'au bout, justement, pour l'exécution et transformer le pays, transformer la vie des gens jusqu'au fin fond des territoires.
Est-ce que ça va perturber le Conseil des ministres prévu demain matin? Et pourquoi est-ce qu'on a reporté le séminaire gouvernemental et pas le Conseil, justement?
Le Conseil, il était prévu, il y a des sujets, il y a notamment la rentrée scolaire, puisque nous aurons une communication, Jean-Michel Blanquer et moi-même, sur cette rentrée scolaire. Donc il était important de le maintenir. Je vous rappelle que c'est la pré-rentrée des enseignants demain, donc il était très important de pouvoir communiquer là-dessus. Le séminaire, il me paraît normal qu'il soit repoussé, puisque le président de la République rentre ce soir, et donc il faut qu'il puisse travailler justement au remplacement de Nicolas Hulot.
L'environnement n'est pas suffisamment prioritaire dans les choix du gouvernement. C'est un petit peu ce qui a justifié le départ de Nicolas Hulot. Le handicap, c'est suffisamment prioritaire, selon vous, aujourd'hui?
Le handicap, c'est une priorité d'un quinquennat qui a été rappelée, qui est encore rappelée par des choix budgétaires audacieux, puisqu'il y aura plus de 500 millions dédiés pour le budget 2009 sur l'augmentation de l'allocation adulte handicapé. Donc je pense qu'il a tout à fait été rappelé à travers les différents chantiers que je mène avec mes collègues, la rentrée scolaire, l'école inclusive, avec Muriel Pénicaud sur l'entreprise inclusive. Donc il est rappelé en permanence que le handicap est une priorité du quinquennat. Mon secrétariat d'État n'est pas attaché au ministère de la Santé, comme vous l'avez dit, mais bien au Premier ministre, ce qui fait toute la différence hein, pour irriguer les politiques publiques de droit commun, du changement de regard et de la place pleine et entière que l'on fait des personnes handicapées au sein de notre société.
Une enquête a été réalisée par l'IFOP en mai et juin dernier pour l'APF, hein, l'Association des paralysés de France. Elle semble montrer que les handicapés seraient très mécontents de l'action d'Emmanuel Macron, à 85%, beaucoup plus que l'ensemble des Français. Et ça en raison du sentiment qu'ils ont que la promesse du président de faire du handicap une priorité n'est pas remplie ou pas complètement remplie. Comment vous avez perçu, vous, cette enquête qui a rendu publique en juin dernier?
Alors d'abord, c'est une enquête qui est faite auprès des personnes à mobilité réduite, hein, qui sont les adhérents de l'APF. Et donc, je rappelle que c'est que 2% des personnes en situation de handicap. Donc, une fois qu'on a rappelé ça, ce sentiment est, à mon avis, très diffus et pas du tout perçu comme tel par l'ensemble des personnes en situation de handicap, qui, je le rappelle, représentent près de 10 millions de personnes avec des handicaps très variés. Ça peut être des déficiences sensorielles, ça peut être des déficiences intellectuelles, des déficiences physiques. Donc il faut peut-être remettre ce sondage dans la globalité de la perception des personnes en situation de handicap. Moi, j'ai des courriers qui m'arrivent tous les jours, comme quoi des parents nous disent « Continuez, il faut qu'on travaille sur cette société inclusive. » C'est vraiment la place qu'il faut changer, le regard qu'il faut changer. Et c'est bien ce à quoi je m'attelle tous les jours.
Le budget consacré à la politique du handicap en France, c'est dans la moyenne européenne, aux alentours de 2%. Au Danemark et en Finlande, où est encore Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est 4% au Danemark, 3,4% en Finlande. Est-ce qu'on en fait, alors on n'est pas mal placé, mais est-ce qu'on en fait assez par rapport à ces pays du nord de l'Europe?
Il faut qu'on en fasse différemment. Il est fait différemment dans ces pays scandinaves. C'est que justement, les moyens ont été déplacés des instituts spécialisés vers le milieu ordinaire. C'est-à-dire que les professionnels qui sont très bien formés pour accompagner le handicap sont maintenant au sein des crèches, au sein des écoles, au sein des entreprises dans ces pays scandinaves. Et c'est vraiment ce que l'on veut pouvoir faire. C'est-à-dire que maintenant, la solution, elle est de proximité. Elle est à l'école de tous. Elle est à la crèche de tous, à l'entreprise de tous. On a encore du travail, hein, bien sûr. Hier, j'étais à l'université d'été du MEDEF pour intervenir sur l'entreprise inclusive. Les entreprises s'engagent, mais pas assez vite. Nous sommes qu'à 3,5% d'emploi des personnes handicapées, alors que nous avons une politique de quota à 6%. Eh bien, dans ces pays scandinaves, il n'y a pas de quota. Et pour autant, le handicap n'est plus un sujet, parce que la diversité fait partie, c'est le universal design, c'est l'accessibilité universelle de tous à tout, depuis bien longtemps, depuis plus de 30 ans. Donc on a vraiment des choses à apprendre, des bonnes choses à apprendre sur nos amis scandinaves.
Une dernière question, Sophie Cluzel, de Stéphane Robert.
Eh bien, il y a un rapport qui vous a été rendu hier, vous le parliez, l'actualité, c'est aussi la rentrée. C'est un peu plus de 300 000 enfants qui entrent à l'école, c'est ça?
Mm-hmm. 340 000 élèves, plus 6% par rapport à l'an passé. Une rentrée beaucoup mieux préparée. Nous avons pu anticiper, justement, et je tiens à saluer tous les effectifs, vraiment, de l'éducation nationale, des maisons des handicaps qui ont préparé cette rentrée pour que, justement, les moyens budgétaires soient totalement transférés. Nous avons pu anticiper les recrutements, pu anticiper les dispositifs collectifs de scolarisation. Donc, c'est une rentrée qui est vraiment travaillée au mieux, avec des recrutements, des conditions de recrutement pour ces accompagnants qui accompagnent que la moitié des élèves, parce que la moitié d'entre eux n'ont pas besoin d'accompagnement. Ça, je tiens à le redire.
Merci Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées, d'avoir été en direct avec nous ce matin, en duplex donc du ministère de la Santé. Merci également à Hélène Langlois pour les moyens techniques. Enfin, merci à vous Stéphane Robert, chef du service politique. L'état de droit est-il en train de vaciller en Allemagne, alors que hier soir on apprenait qu'une attaque à caractère raciste visant un migrant avait eu lieu à Wismar? Un peu plus tôt dans la journée, la police allemande elle-même s'est vue accusée d'avoir fait fuiter des documents confidentiels à l'extrême droite. En l'occurrence, les photos du mandat d'arrêt de l'Irakien accusé d'avoir poignardé un Allemand à Chemnitz la semaine dernière. À cela, il faut encore ajouter une nouvelle manifestation prévue ce soir à l'initiative du mouvement radical de droite pro-Chemnitz. Depuis près d'une semaine maintenant, la question qui se pose aux autorités reste donc toujours et encore la même. Comment contribuer à faire de l'espace public un état de droit? Nathalie Versieux nous appelle de Berlin.
Ce matin, le magazine Der Spiegel s'inquiète de la dégradation de l'image de l'Allemagne à l'étranger. De fait, la législation ne permet guère aux autorités de faire interdire une manifestation au nom des libertés individuelles strictement garanties par la Constitution adoptée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. De la même façon, ni Angela Merkel ni son ministre de l'Intérieur Horst Seehofer n'ont les moyens d'imposer aux autorités saxonnes compétentes pour les questions de sécurité l'envoi de la police fédérale à Chemnitz pour y rétablir l'ordre. Aujourd'hui, c'est donc le gouvernement régional de Saxe qui est sur la sellette, accusé d'avoir sous-estimé la motivation de l'extrême droite. Par incompétence pour les uns, pour ne pas se mettre à dos une population largement acquise à l'extrême droite dès qu'il s'agit de questions migratoires, selon les autres, alors que d'importantes élections régionales se dérouleront en Saxe l'an prochain, le parti d'extrême droite AfD a de bonnes chances d'arriver en tête du vote et de former le prochain gouvernement de la région.
Chronique du racisme ordinaire aux États-Unis cette fois-ci, avec cette controverse à l'ouverture d'un duel électoral inédit en Floride. Ça se passait hier entre le premier candidat noir au poste de gouverneur en Floride, donc, et son adversaire, un républicain pro-Trump. Nadine Epstein, bonjour.
Bonjour.
Le candidat républicain Ron DeSantis a donc provoqué une polémique en employant un verbe, to monkey up, que l'on pourrait traduire en français par singer, alors même qu'il s'adressait à son opposant noir.
L'extrémisme et le sectarisme, la suprématie blanche et le racisme ont trouvé un nouveau souffle avec Donald Trump à la Maison Blanche. Le président américain a dissipé des tabous et a introduit dans le discours politique les insultes et autres tweets incendiaires qui traînent dans la boue tout opposant. Et donc beaucoup de candidats du Parti républicain aux élections de mi-mandat de novembre prochain ont choisi d'afficher leur loyauté totale au président. Ainsi, en Floride, vous l'avez dit, Ron DeSantis a axé sa campagne sur le livre de Donald Trump et son slogan « Rendre à l'Amérique sa grandeur ». Il a endossé le maillot de candidat anti-establishment et a repris les mêmes discours que Donald Trump. Et pour contrer son adversaire démocrate Andrew Gillum, premier candidat noir au poste de gouverneur de Floride, il a surfé sur le racisme en employant un verbe à partir du mot « singe » pour dire, se défend son équipe, je cite, que la Floride ferait un mauvais choix en suivant les politiques proposées par le candidat démocrate d'extrême gauche. Andrew Gillum est soutenu par Bernie Sanders et quelques heures auparavant, c'est Donald Trump qui l'avait qualifié de maire socialiste raté qui a permis à de nombreux problèmes de se propager dans la ville. Et donc, le candidat républicain de Floride singe le président milliardaire pour gagner son siège de gouverneur cet automne.
Merci Nadine Epstein. Toujours s'agissant des États-Unis, Washington et Ottawa semblent bien partis pour trouver un nouvel accord de libre-échange après le compromis trouvé avec le Mexique. Donald Trump s'évertue ainsi à honorer ses promesses électorales et pour cela, la stratégie du président semble être toujours la même, négocier de manière bilatérale en faisant planer systématiquement l'ombre de la toute-puissance des États-Unis. Alors cette stratégie ne remporte pas toujours que des succès, pour preuve le bras de fer commercial avec la Chine qui tient tête aux États-Unis. Et puis autre exemple, s'agissant cette fois-ci de la Corée du Nord, là encore, Donald Trump a bien du mal à afficher une politique cohérente depuis son sommet inédit avec le numéro 1 nord-coréen Kim Jong-un, à l'issue duquel il avait affirmé que Pyongyang ne représentait plus une menace nucléaire. Trump a bien du mal à engranger les progrès. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour.
Dernier exemple en date, Donald Trump vient d'annuler une nouvelle visite de son secrétaire d'État à Pyongyang et se met à accuser désormais la Chine d'être responsable de la mauvaise volonté de la Corée du Nord.
C'est pas moi, c'est l'autre. Une salve de tweets reprenant un communiqué de la Maison-Blanche qui n'a guère été apprécié à Pékin. La Chine dénonce la logique irresponsable et absurde des États-Unis, passé, je cite, « champion du monde en la matière », avant d'engager Washington à se regarder dans un miroir au lieu d'accuser les autres. Et il est vrai qu'une fois de plus, c'est une communication confuse qui vient de la Maison-Blanche. Le président américain accuse ainsi Pékin de compliquer grandement les choses avec la Corée du Nord, en fournissant une aide considérable à Pyongyang, argent, carburant, engrais, avant d'ajouter que tout cela sera résolu grâce à la relation si forte qui l'unit au grand président chinois. Même curieux mélange dans l'adresse à Pyongyang. Contrairement à ce qu'avait dit son secrétaire à la Défense, Trump assure qu'il est inutile de reprendre les manœuvres militaires conjointes avec la Corée du Sud, manœuvre dont il avait, à la stupéfaction générale, annoncé le gel en juin dernier pour plaire à Pyongyang. Mais il ajoute qu'il peut choisir de les réactiver à tout moment et qu'alors ses exercices militaires seraient plus importants que jamais, sans se priver de souligner à quel point sa relation avec Kim Jong-un, le numéro 1 nord-coréen, est excellente et chaleureuse. Difficile d'y voir clair. Sans doute faut-il y lire la frustration de Donald Trump, si avide de montrer aux Américains et au monde qu'il a réussi en Corée du Nord, là où tous ses prédécesseurs avaient échoué depuis plusieurs dizaines d'années. Ce qui semble, c'est qu'une fois de plus, en mêlant critiques, flatteries et menaces voilées, Donald Trump invite les pratiques du monde des affaires à la table des affaires du monde. Une diplomatie dont il reste à voir si elle portera ses fruits. Avec la Corée du Nord, en tout cas, il semble bien difficile de déceler un quelconque progrès dans la dénucléarisation, même si, et c'est frappant et symptomatique, Trump se garde bien de toute critique à l'égard de Pyongyang.
Merci Marie-Pierre Véro. On termine avec un mot du temps pour aujourd'hui. Souvent nuageux dans le nord, plus lumineux dans le sud. Les températures, elles varieront cet après-midi entre 19 et 32 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par M. Le Chili. Prochain rendez-vous avec la rédaction, ce sera à 18h et Aurélie Kiefer.